Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?» Notre émission en direct tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h. L'émission sera rediffusée jeudi de 9h à 10h et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Nous sommes le mardi 6 février et je suis Marion Milsan. Je suis accompagnée de Chloé Lenders et de Marion C. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, on accueille une invitée, Louise. Nous sommes ravis de te recevoir, donc merci d'avoir accepté notre invitation et hâte de discuter avec toi pendant cette heure ensemble. Comment allez-vous les filles et comment ça va Louise ?
Bonsoir, eh bien ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous.
Ouais. Les filles, ça va ?
Ça va bien.
Marion, comment ça va ?
Hyper bien.
Hyper bien. Eh bien, tant mieux. Louise, durant notre émission, on va discuter de toi, de ce que tu fais, de ton rapport à l'écoute, de tout ce qui t'anime. Mais est-ce qu'avant toute chose, tu aurais envie de te présenter un petit peu à l'antenne ?
Ah oui, je n'ai pas préparé, mais c'est parti. Je m'appelle Louise Douming, je suis plein de choses. Je suis danseuse et chorégraphe de ma compagnie qui s'appelle Purple Fog, qui est basée à Marseille. Et je suis aussi dessinatrice et autrice. Ça fait plusieurs années que je travaille sur un premier projet de roman graphique qui s'appelle « J'étais pourtant déterminée » et qui va sûrement voir le jour bientôt.
Très chouette. Alors donc, moi j'ai pensé à toi ce soir Louise parce que tu es artiste, tu danses, tu peins, tu écris, tu crées. Et je me demandais, est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que, par quoi tu as commencé ?
En fait, j'ai fait des études d'art appliqué, donc j'ai très vite dessiné. Et c'est trop marrant cette histoire avec la danse parce que mes parents m'avaient un peu inscrit à la danse comme ça quand j'avais 10 ans et je détestais y aller. J'étais vraiment la pire élève du cours de danse. Et puis beaucoup plus tard, quand justement je dessinais, que j'avais 17-18 ans, je m'étais remise à la danse pour un petit peu changer d'air. Et là, il y a eu une rencontre avec une prof que je me souviendrai toujours. Quand je la voyais danser, je me disais, mais mon Dieu, mais moi j'ai envie de faire ça. Et du coup, ça m'a reconnectée avec la danse à ce moment-là. Et du coup, après mon bac, je suis partie en école de danse pro, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et je me souviens de mes parents qui étaient super étonnés et qui ne l'ont vraiment pas vu venir.
Ils t'ont soutenu ?
Ils étaient étonnés, mais pas mal. Ils ont été pas si mal, franchement.
Merci maman, merci papa.
Et du coup, tu danses et tu peins aussi, parce que tu nous as ramené un magnifique livre là, que tu vas sortir prochainement, tu nous le disais en préparant l'émission.
Voilà, en fait, je l'ai terminé. Je cherche actuellement une maison d'édition. Donc, on verra si j'arrive à travailler avec un partenaire qui serait une maison d'édition ou à l'auto-éditer. Mais...
J'étais pourtant déterminée.
Exactement.
Il est vraiment très beau avec des illustrations. Là, je suis sur le chapitre croyances culinaires. Donc, tu peins aussi depuis toujours ?
Moi, j'ai toujours aimé dessiner et ça fait quand même un moment là que c'est vraiment une pratique quotidienne.
C'est vraiment très beau, très coloré et t'abordes, j'imagine, plusieurs sujets dans ce livre. Enfin, là, il y a une ligne éditoriale où t'abordes différentes choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comment tu as construit ce livre ?
La ligne, c'est comment devenir adulte à travers les ruptures. Et l'idée, c'était de traverser plusieurs ruptures. Donc, il y a une rupture dans le corps. Il y a l'histoire d'une dent malade que j'avais et que je refusais d'enlever. Et donc, j'avais toujours une espèce d'infection dans la bouche parce que je refusais cette rupture avec mon corps qui serait de l'ordre d'enlever ma dent. Je parle aussi de la rupture dans le paysage de mon enfance. Comment, quand je reviens chez mes parents, tout a été construit. Il y a plein de lotissements. C'est plus du tout comme avant. Je parle aussi d'une rupture avec ma mère, un conflit qui s'est étalé avec des amis, enfin voilà.
T'abordes beaucoup de choses profondes alors dans ce livre.
Et ça t'est venu comment du coup la peinture et le dessin ?
Je crois que comme tous les enfants, j'aimais bien dessiner. Et puis après quand j'ai découvert... à l'école, les cours d'art plastique, c'était vraiment le truc qui me bottait, qui me demandait aucun effort. Et puis après l'école de danse, du coup, j'ai fait les Beaux-Arts et c'est vrai que je me suis sentie bien dans mon élément. Et c'est vrai que j'ai pas besoin de réfléchir quand j'ai un crayon entre les mains. C'est aussi un truc que je fais sans jugement et sans ambition, j'ai l'impression. Je me suis jamais dit « Oh, je vais gagner de l'argent avec ça » ou « Je vais faire ça de ma vie » ou « C'est moche » ou « C'est bien », juste « Je le fais ».
Mais que ce soit les dessins ou l'écrit aussi, tu t'es... Où est-ce que tu... Enfin, ton inspiration, elle te vient d'où ?
Bon, j'ai fait des projets super autobiographiques, que ce soit dans la danse ou dans les dessins ou dans l'écriture. Donc, ça vient vraiment de ce que je vis et des sensations que je traverse.
Et t'as l'impression à travers, par exemple, l'écriture, la peinture, peut-être aussi la danse, parce qu'on est dans l'émission ici, on s'écoutait. Est-ce que c'est des moyens pour toi de t'écouter plus justement encore ou... C'est quoi ton rapport à l'écoute à travers tes arts ?
Oui, je pense que faire ce choix de cette carrière artistique, c'est avoir écouté mon intuition que c'était à l'endroit où je devais être. Et même s'il y a souvent des doutes, on en parlait un peu avant l'émission, c'est vraiment lié à la question de l'écoute, parce que ça nécessite de se dire, bon, alors mon projet, Il a l'air un peu compliqué, mais je vais quand même faire ça. C'est quand même la petite voix qui me dit de faire ça.
Oui, parce que je me suis toujours posé la question, quand on écrit un livre, est-ce qu'on le fait ? On écrit pour soi ou pour les autres ? Ou peut-être les deux. Mais comment on construit Est-ce qu'on s'écoute soi ou est-ce qu'on écoute aussi ce que peuvent ressentir ou les autres ?
C'est une super bonne question. Je pense que je l'ai écrit pour moi. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est super marrant, je me suis déjà dit ça, j'ai déjà eu cette sensation. » Donc au final, ça vient convoquer des choses assez universelles. Mais en même temps, c'est aussi un livre qui rend hommage à plusieurs amitiés. Et je retranscris la parole de certains copains ou certaines copines que je trouve super poétiques ou super... improbable, et c'est aussi en les écoutant, eux, que j'ai eu envie d'écrire.
Je peux lire juste une petite...
Ouais, vas-y.
C'est une partie dans ton livre où tu écris « Dans la vie, je dessine et je suis aussi danseuse. Je crois que j'ai choisi ce métier, car quand je danse, je suis contrainte d'attraper ma vie à bras-le-corps. D'un coup, elle m'appartient, elle ne m'échappe plus. » C'est beau.
Ouais. C'est quoi justement ton rapport à ton corps aujourd'hui ? Vu que tu danses aussi, tu crées. D'ailleurs, on pourra en parler. Mais ouais, tu le vis comment là ?
C'est une bonne question ça. Bah, je crois que c'est avant tout quand même un outil de travail pour la danse, pour le mouvement. Même si je ne suis pas du tout dans la création... d'une danse qui est très athlétique. Je fais une danse qui est assez poétique et qui est très proche du théâtre aussi. Mais ça reste un endroit où j'ai envie de me sentir toujours bien dans mon corps parce que c'est un lieu d'engagement dans ma pratique.
Justement, est-ce qu'en dansant, il n'y a pas eu des fois où... Enfin, c'est quand même... parfois, il y a des frustrations qui arrivent, quoi, quand on est face à son corps. Que ce soit via juste ce qu'on peut ressentir, des blessures ou autres, ou même... juste des moments où on n'habite pas forcément son corps. Et est-ce que ce rapport-là, il est évident tout le temps ?
Non, je pense que ça a été très dur. Même au début, je pense, entre mes 18 et mes 25 ans, je pense que ça a été compliqué. Mais j'ai persévéré avec tous les corps que j'ai eus, qui sont des corps très différents. Et j'ai l'impression que ces dernières années, ça va mieux. Qu'il y a un truc avec le temps où on se connaît mieux, on connaît mieux son corps et on est moins dans le conflit avec lui. Mais bien sûr qu'il y a des frustrations, qu'il y a des... Je sais pas comment, des complexes, plein de choses. Et que c'est encore plus exacerbé quand on est autant projeté, quand on est autant visible que quand on est sur scène.
Et tous tes projets que tu développes, c'est des projets seuls ? Où tu es accompagnée
majoritairement, mais là il y a un projet de danse où on est plusieurs à l'écriture Et on est plusieurs au plateau, donc c'est une vraie collaboration artistique avec Gabriela Jiménez et Marie Gibaud. On écrit un duo à trois.
Parce que je me demandais si on, dans les projets où on est seul, est-ce qu'on s'écoute plus que quand on développe un projet à plusieurs ? Je me pose la question.
Moi, j'étais très partisante des projets seuls, parce que je pense que j'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite et de savoir beaucoup mieux ce que je voulais. Au final, le livre est un peu un contre-exemple parce que ça a été un chemin très très long et très très torturé pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire finalement et où est-ce que j'allais. Et j'aurais vraiment rêvé à plein de moments le faire avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, par exemple, là je travaille sur un solo de danse en ce moment aussi où j'ai l'impression d'être super productive, d'être vraiment au bon endroit, de faire vraiment un truc qui m'intéresse. Et que c'est vraiment lié au fait de ne pas devoir partager la direction artistique avec quelqu'un d'autre.
Et par rapport en fait, au processus artistique, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire, en prenant peut-être ton livre en
support.
Exemple, ouais, en support, comment, parce que il faut quand même arriver à ça, hein, il est assez gros, il y a beaucoup d'images, ça a dû te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, est-ce que à la base, tu savais que tes dessins allaient être dans un livre ? Enfin, comment t'es venue l'idée ? Est-ce que tu t'es dit, je vais commencer par un livre, ou est-ce que c'est en learning, en faisant les dessins, quoi ?
En fait, je ne sais pas, c'était au tout début du confinement, j'ai commencé à lire pas mal de BD et de romans graphiques. Moi, je dessinais, je faisais plutôt des grands dessins qu'on exposait. Et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment super de faire un livre, je sens que j'ai vraiment envie de faire un livre. Et du coup, j'ai commencé à écrire, à dessiner. Et ça a commencé comme ça, avec vraiment quelques dessins, des petites notes, des petites post-it par-ci, par-là. Mais ça a été... assez compliqué quand même à mettre en forme et à trouver un sens et puis surtout à persévérer. En fait, il y a plein de fois, je me rappelle surtout d'une fois où je voulais vraiment abandonner le projet, où j'étais au restaurant avec un copain et où je lui ai dit bah, tu sais, le livre c'est fini, je vais l'abandonner, je vais le laisser dans un carton. Et en même temps que je lui disais ça, j'avais des larmes un peu inconscientes qui coulaient. Et il me disait, c'est quand même bizarre de dire ça et en même temps pleurer. J'ai l'impression que c'est pas ce que tu devrais faire. Et ça a vachement résonné. J'ai repensé plein de fois à ce qu'il m'avait dit. Et ça, c'est pour ça que je suis remontée sur mon cheval encore après.
D'ailleurs, la ligne directrice, elle a changé. Est-ce que tu t'es dit, ok, je sais que j'ai envie de parler de ça dans mon livre ? Ou est-ce qu'au fil de ce que tu as pu vivre dans ta vie, ça a changé ?
Elle n'a pas trop changé, je m'y suis tenue parce que sinon ça pouvait changer tous les jours parce qu'on vit des choses nouvelles tous les jours et qu'il faut bien arrêter les choses à un moment donné. Donc elle n'a pas tant changé, même s'il y a plein de relecteurs, de copains, d'artistes qui avaient une vision sur le livre qui me disaient « Ah, tu devrais peut-être t'occuper plus de ça, aller plus vers ça ». Mais au final, même avec des moments où je me suis égarée ou des moments où j'ai suivi un peu trop les conseils des autres, à la fin, quand je vois le livre, je suis vraiment à l'endroit où j'avais décidé d'aller au début.
Donc, dans le processus de création, finalement, c'est important de s'écouter beaucoup pour aller atteindre quelque chose qui nous ressemble peut-être davantage.
Moi, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps en écoutant les autres, mais en même temps, si j'avais pas fait cette digression, peut-être que le livre serait pas aussi riche et je pourrais pas le défendre de la même manière. C'est aussi parce que j'ai perdu du temps et je me suis trompée. Mais à la fin, à la toute toute fin, évidemment, c'était mon intuition. La forme qu'il a, c'est la forme que je voulais lui donner au début, même si tout le monde me disait « ça va pas être très commercial, tu devrais pas faire ça ». En fait, je suis revenue à l'endroit où j'avais envie d'être. Donc je me suis réécoutée à la fin.
Parce qu'en fait... Quelles étaient tes motivations ? Parce que tu dis ça va, tu parles du fait que ça va pas être très commercial, etc. Donc l'idée de faire le livre, c'était une idée pour toi en fait. C'était pas pour le vendre en fait. Où est-ce que tu te situes dans cette branche ?
Je voulais faire le livre pour moi, évidemment, mais en même temps, j'ai tout de suite eu l'ambition ou le rêve qu'il soit quand même édité et qu'il puisse être lu par d'autres aussi, parce que ça prenait tellement de temps. Je me disais, c'est pas possible qu'à la fin, ce soit juste pour moi et pour ma famille et pour mes amis.
C'est beau, donc merci de partager ça avec nous, parce que vraiment, il est super beau. On le prendra en photo.
Et est-ce que Marseille t'a inspiré? Quelle est la place de Marseille dans ton processus de création? Tu es de Marseille d'ailleurs ou...
Non, je suis originaire de Bretagne. Je suis arrivée à Marseille en plein milieu de la création du livre. Donc évidemment que Marseille a été... Il y a quelques dessins de Marseille d'ailleurs qu'on reconnaît bien dans le livre. Mais, en fait, ce qui a été super important, c'est que j'ai pris une place dans un atelier d'artistes qui s'appelle l'Atelier V à Marseille. Et c'est quand même d'être entourée d'autres voix au quotidien, d'encouragement, de regard extérieur, qui m'a aussi permise d'aller jusqu'au bout du projet et aussi d'avoir le retour artistique d'autres quand même sur les dessins quotidiens.
D'autres peintres ou c'est des artistes dans d'autres secteurs complètement différents?
Plutôt dans d'autres secteurs complètement différents.
Et comment ça se passe en fait la résidence d'artiste? Tu y vas tous les jours? Comment ça s'organise?
Bah, là pour le livre, j'avais un atelier d'artiste que je louais. Donc c'était un grand espace qui appartient à un privé qu'on loue tous ensemble pour avoir un espace pour créer. Et en même temps, j'ai eu par exemple un temps de résidence avec La Marelle, la Villa des auteurs de Marseille. Où là, je suis partie à la médiathèque de Vence pendant 5 semaines, où j'avais un grand atelier où je travaillais sur le livre. Et en même temps, je donnais aussi des interventions, des ateliers avec des écoles, et on travaillait ensemble à petite échelle sur aussi un processus de création d'un mini-livre qu'ils faisaient avec moi.
Et est-ce que tes disciplines, elles se recoupent ou c'est du... Parce que donc tu es artiste, tu as plusieurs disciplines, est-ce qu'elles se recoupent, tu as cette volonté-là ou c'est très structuré? Quand tu fais de la danse, tu es dans la danse, dans ton livre
C'est très structuré, j'aimerais peut-être qu'un jour les choses se croisent, mais pour l'instant elles ne se croisent pas. Je ne mets pas de dessin dans ma danse. Et... Après on dit que souvent mes dessins sont très dansants, qui sont très en mouvement, mais les disciplines et les projets sont assez séparés. Après, le gros point commun, c'est qu'il y a toujours la question de l'intime et la question du documentaire dans les deux. J'écris quand même toujours à travers ces deux biais, que ce soit dans mes spectacles ou dans le livre.
Et comment tu t'es dit « Ok, je vais me dédier à ça, genre ça va être mon activité pro et, ouais. et c'est de ça dont je vais vivre ?»
Tu parles du...
De tout.
Bah, en fait, j'ai fait une école d'art, puis c'était super. Et puis je suis sortie de là et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Là, c'était un moment où j'étais super lancée sur le projet du livre. Je dessinais beaucoup. Et j'avais commencé à dessiner un peu pour la presse. J'avais eu quelques contrats. C'était terrible parce que c'est si mal payé. Et puis c'est si difficile. Puis c'est si difficile d'avoir des contrats. Et puis des fois, on fait les dessins et finalement, ça leur plaît pas. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. À côté de ça, j'avais commencé un peu une formation pour devenir prof de danse parce que je me disais, il faut bien que je gagne ma vie. Et j'ai pas forcément envisagé tout de suite sérieusement la carrière artistique. Et puis, quand je suis revenue en France, j'ai dansé pour plusieurs projets. Et là, j'ai eu mon statut d'intermittente. Je me suis rendu compte que c'était une vraie possibilité de se dédier à ça. Et donc, je me suis dit, OK, si j'ai l'intermittence, avec le temps que m'offre l'intermittence, moi, je fais mon livre. Ce qui n'était pas forcément le meilleur des calculs, mais en même temps, je crois que spontanément, j'avais vraiment envie de passer mon temps à créer, à faire ça. J'avais l'impression que j'avais que des compétences pour ça parce que j'avais fait une école d'art, que je pouvais pas vraiment faire un autre métier. Et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que je doute très très régulièrement et en ce moment c'est la maison du doute parce que je me dis comme j'ai perdu mon intermittence, je me dis bon, est-ce que je ferais pas un métier qui me plaît mais qui rapporte un peu d'argent et continuer à côté ma pratique, sachant que c'est quand même très compliqué parce que quand on travaille 35 heures c'est difficile de le soir avoir la fougue pour faire un livre, pour faire des dessins, ouais, pour écrire des spectacles.
Et moi, j'avais une question sur l'état d'esprit dans lequel il faut être pour écrire. Parce que, est-ce que quand tu écris, il faut que tu sois, en fait, justement, quand, dans ton exemple, est-ce que en rentrant du travail après à 17-18 heures, est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce qu'il faut être dans un état d'esprit? Et si oui, quel état d'esprit?
J'ai l'impression que ça aide quand même d'être dans un état d'esprit et que souvent de vivre des gros changements, des crises, en fait, les moments de crise, c'est vrai, hein, malheureusement, c'est super inspirant. Je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est un moment où vraiment je sortais de l'école, je voyais pas trop où j'allais aller, l'avenir, c'était vraiment un gros trou noir. Bon, évidemment, cette peur, cette inquiétude était super inspirante. J'écrivais beaucoup parce que j'avais un rapport au monde super poreux, je pense, lié à mes inquiétudes. Et oui, ça a été une période où j'ai énormément écrit et maintenant, c'est vrai que j'écris moins en ce moment.
Parce que c'était un peu ça, ma question, c'est est-ce qu'il faut, entre guillemets, aller mal pour avoir l'inspiration. Je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est pas la première fois en fait que j'entends ce genre de commentaires de personnes que je connais qui sont artistes. Et voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un questionnement.
Je crois qu'il y a une sorte de fantasme autour de ça.
Ouais, il y a un livre qui parle de libérer votre créativité. Et justement, c'est une nana qui dit, mais en fait, j'écris des scénarios, mais j'en ai marre d'être dans des états ivre-morte pour écrire ou sous substance ou autre. Et donc, du coup, je vais créer un livre, elle a créé une école pour permettre justement à cette créativité d'arriver dans des moments où tu vas bien aussi et que ce ne soit pas forcément des moments de crise. Mais je comprends aussi, tu vois, toute cette poésie qu'on peut avoir, qu'on sent, qui a peut-être été écrite dans des moments de spleen intense ou autre, qui te touche, parce qu'à ce moment-là, peut-être que c'est ce que tu lis. Mais Louise, t'en penses quoi?
Moi, je pense que j'ai le plus écrit quand je vivais des choses intenses, mais c'était pas forcément que du malheur, c'était aussi des choses nouvelles, des choses qui me bousculaient, qui me déplaçaient, qui me donnaient envie d'écrire. Mais c'était pas forcément que du négatif ou que du drame. C'était surtout des choses qui me remettaient en question.
Et cette remise en question, tu penses qu'elle est puissante en quoi? Est-ce qu'elle te permet du coup de plus te recentrer au moment présent? Ou est-ce que tu penses qu'elle te sert à quelque chose dans ton processus de création, cette remise en question perpétuelle? Ou le manque de visibilité, comme tu disais, sur le futur, est-ce que ça te ramène plus au présent et donc plus à ton écoute à toi dans tout ça?
À travers le processus d'écriture et le processus créatif, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, je pense que ça révèle une partie de nous. Donc c'est positif à la fin quand même.
Ouais, surtout que tu dis que ton livre parlait de rupture dans plein de sens différents. Est-ce que ça, maintenant que ce livre, ça y est, il est face à nous là, il est là? En chair et en os, est-ce que tu te sens un peu plus guérie de toutes ces ruptures?
Oui, quand même. Après 4 ans d'écriture, de dessin, je me sens... À la fin du livre, je dis, est-ce que je peux terminer ce livre alors que je n'ai pas répondu à ces grandes questions qui sont comment devenir un adulte digne de ce nom? Comment aimer les gens qu'on aime sans les anéantir? Et à la fin, je dis, je crois que je n'ai pas les réponses, mais en même temps, c'est pas grave. J'ai l'impression que les choses se sont quand même apaisées, ont trouvé de la douceur. J'ai eu plein d'amis qui m'ont fait des révélations, qui m'ont fait aller mieux. Donc.
Et par rapport en fait au dessin, t'as changé un peu ton style au fur et à mesure. Est-ce que c'est chronologique? Est-ce que les dessins du début du livre, tu les as fait avant ceux de la fin du livre?
Non, c'est pas chronologique. Okay. Et oui, évidemment, il y a un petit décalage, le trait qui évolue un peu. Moi, je le vois beaucoup à certains endroits, mais je sais pas si c'est si visible que ça pour un regard extérieur.
Comme ça, de but en blanc, je dirais pas. Mais, mais je m'y connais pas plus que ça. Mais oui, faudrait chercher, je pense.
Et justement, tu les dessines sur quoi ? Sur, est-ce que tes dessins, tu te dis, ok, ça, ça va illustrer telle partie ? Ou est-ce que c'est, enfin, est-ce que ton écrit appelle au dessin ? Ou est-ce que le dessin appelle à l'écrit ?
Ça, c'était vraiment ma grande question de méthodologie. Parce que j'avais envie d'écrire et de dessiner une histoire. Et j'écrivais des petits bouts, je dessinais des petits bouts. C'était un chaos. Et je me disais, mais comment assembler tout ça ? Et un jour, il y a un artiste qui est venu à l'atelier un peu pour m'aider, pour discuter de mon livre, un auteur de bande dessinée. Et il m'a dit, il s'est vraiment penché sur la question. Il était là, waouh, c'est si fragmenté, qu'est-ce qu'on va faire de ton projet ? Et puis il m'a dit, je crois qu'il faudrait tout écrire. Qu'il faudrait tout écrire, qu'il faudrait mettre un point final au texte et ensuite se poser la question des dessins. Et ça a changé, la vie du projet, parce que d'un seul coup, il y avait une vraie méthode. Donc le dessin, la majorité des dessins sont venus après le texte.
Ouais. Et les dessins que tu avais faits avant ont servi ?
Oui, ils ont trouvé leur place.
Ils ont trouvé.
Voilà.
En fait, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'on a l'impression que le processus de création, c'est ça sort de la tête, etc., etc. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit toi-même, hein, il y a une vraie méthodologie. Et en fait, non, on est vraiment dans le travail, en fait. Donc, est-ce que peut-être que ça pourrait être intéressant de discuter un peu de ça. Est-ce que toi, tu considères que l'art, c'est un travail ou est-ce que c'est une passion ? Parce qu'en effet, tu as décidé d'en faire ton travail. Donc, est-ce que tu en perds un peu du plaisir ? Quelle est ta relation par rapport à ça ?
Oui, moi, évidemment, je considère que c'est un travail. Ça prend même tellement de temps et c'est un travail qui est tellement invisibilisé. Mais en même temps, je considère que toutes les pratiques amateurs sont aussi de l'art au même titre. Parce que c'est le même désir ou nécessité viscérale de faire quelque chose. Donc, c'est les deux. Moi, des fois, je me dis que je pourrais vivre d'autres choses et faire mes livres comme une passion aussi. Mmh. Et que ça ne changerait pas la qualité de mon travail ou...
Mais est-ce que ça changerait ton plaisir ?
Non, je crois pas.
Non ? Donc quand tu travailles sur ton livre, tu vois ça comme un travail, mais un travail aussi qui t'apporte de la joie, quoi.
Oui.
Ok.
C'est possible.
Est-ce que tu écris en écoutant de la musique ? Ou tu es plutôt dans le calme ? Si on t'imagine dans ton studio, on t'imagine comment, Louise ? C'est plutôt feutré, calme, en musique, dansant ?
J'aime bien écouter la musique quand même, mais après en écrivant, je sais pas, parce que c'est vrai que des fois avec le texte...
Oui, peut-être plus en peignant.
Oui, j'écoute la musique quand même souvent en dessinant, j'aime bien ou écouter des podcasts ou écouter la radio, mais peut-être pas en écrivant. C'est vrai qu'en écrivant, c'est peut-être dans le silence.
Le silence, on en a parlé au cours de ces dernières émissions, la place du silence aussi, que c'est important et que ça fait ça permet des respirations. Aussi, ça nous permet de prendre la distance, de faire des pauses. Peut-être que dans ton travail, le silence, ils sont importants aussi.
Oui.
Vas-y.
Non, mais je me disais, vu que là, tu es aussi dans une création où là, le livre est terminé, donc ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que tu es en recherche d'éditeur.
Oui.
Ouais, bon entendeur. mais que du coup, là, c'est moins ce qui t'anime actuellement, enfin, ce qui anime tes journées, en tout cas. Et là, c'est plutôt la résidence que tu es en train de faire de danse.
Oui.
Où j'imagine que c'est danser et parler, non, c'est ça ?
Oui, exactement.
Et il doit y avoir ces silences, j'imagine, dans cette création. Peut-être pas.
C'est marrant parce que du coup, le spectacle sur lequel on travaille en ce moment, c'est un duo qui dure 20 minutes. Et le projet, c'est de parler et de danser des moments de réel où le réel nous a semblé irréel. Donc on a écrit à trois une collection de souvenirs où le réel nous a semblé irréel. Parce qu'il était trop violent, parce qu'il était absurde, parce qu'il était drôle. Et en fait, on a enregistré nos voix, enfin la voix de Gabriella, qui raconte ses souvenirs. Donc il y a plein de souvenirs très différents qui défilent comme ça dans une espèce de voix off. Et à l'intérieur de ça, il y a un drone, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de son continu, vibrant, un peu entêtant, qui tient toutes les 20 minutes et où les extraits de paroles passent. Et en fait, on a décidé, c'est marrant, la semaine dernière, de créer un trou de silence où le drone s'arrête, ce qui est super agréable, parce que ça fait un peu mal à la tête, et où la voix apparaît dans un silence, et du coup, elle a vraiment une autre...
On l'entend, ça apporte de la puissance, oui. Peut-être.
Et évidemment, la puissance du silence, on aurait dû y penser depuis le début.
Et du coup, ce spectacle, il est déjà... Tu le joues déjà ou il est en création, là ?
Il est en création.
OK. Et il sera disponible... Enfin, il sera... visible où ?
Et on ne sait pas encore. Okay. C'est les joies de la création. On cherche actuellement, justement, des dates, des lieux, des festivals pour accueillir cette petite forme chorégraphique de 20 minutes.
Mais vous avez à cœur de le faire à Marseille ? Ou
oui,
dans la...
ouais. À Marseille, voilà. Et dans la région.
En Bretagne, peut-être aussi ?
Aussi en Bretagne. Aussi peut-être en Belgique, où j'ai fait mes études.
Et est-ce que dans toutes tes activités, est-ce que tu t'octroies des pauses ou est-ce que tu en as besoin justement de ces silences et respirations ou tu es très souvent, perpétuellement dans ce processus créatif ?
C'est très difficile de faire des pauses. J'ai l'impression que je culpabilise énormément une journée où je travaille pas. C'est-à-dire une journée où j'envoie pas des mails, une journée où je fais pas des dossiers, où je dessine pas, où je travaille pas sur mon projet de danse. Et donc, c'est pas très sain parce qu'en fait, on est dans un truc infernal où on a du mal à s'écouter. Et comme on est un peu sa propre entreprise, enfin son propre chef, c'est très difficile de se mettre un cadre qui serait aussi un cadre bienveillant et qui prendrait soin aussi de respecter ses limites, des endroits où on a besoin de se reposer.
Tu souffres un peu parfois de cette solitude que ça peut amener ?
Oui, moi j'aimerais beaucoup des fois... faire un travail de 8h à 18h, rentrer chez moi, ne plus penser à mon travail, ne pas travailler parce que c'est le soir, que je suis chez moi, que mon travail, ce sera demain matin. Évidemment, j'envie des fois ce rythme de vie où les choses sont bien dissociées. Mais j'ai pas fait ce choix, j'ai fait un autre choix qui m'apporte aussi beaucoup de joie et il faut dealer avec sa complexité.
Du coup, tu disais que tu avais fait tes études en Belgique. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Belgique pour faire tes études ?
Ce que j'aimais bien dans l'idée des beaux-arts en Belgique, c'est qu'on choisit une discipline et c'est très académique, on ne fait un peu qu'une seule chose.
Donc, tu avais choisi quoi ?
J'avais choisi une section qui était une section de performance, où on créait des spectacles.
D'accord.
Mais j'avais réussi un peu à contourner la règle et à passer beaucoup de temps à l'atelier de dessin. Donc j'ai réussi à faire un peu les deux choses qui m'intéressaient.
Et tu penses que c'est différent leur approche par rapport à la France ?
Oui, je crois qu'en France, on touche vraiment à tout. On apprend beaucoup plus de techniques variées, j'ai l'impression. Et aussi, c'est vrai qu'en Belgique, l'art du spectacle est à l'intérieur des beaux-arts, ce qui n'est pas le cas en France.
D'accord.
Moi, j'aimerais bien revenir justement à la danse parce que donc, tu disais que là, vous créez à trois un duo. Cette idée, elle est venue comment ? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés récemment et tu t'es dit let's go ? Est-ce que c'est, ça a été, j'imagine, beaucoup de discussions ? Ou pas ? Peut-être pas, en fait. Peut-être que ça s'est fait autour d'un verre un soir et...
En fait, j'avais eu des copains qui m'avaient prêté un studio de danse une après-midi et du coup, j'étais passée au studio pour un peu improviser, m'entraîner. Et puis, j'avais commencé à parler et à danser en même temps et à raconter toute une histoire qui m'était arrivée une fois. Et à la danser, à parler, et j'avais filmé, c'était très drôle et c'était un peu absurde. Et je me disais, il y aurait peut-être un truc à tirer d'une espèce de personnages qui relatent comme ça des souvenirs, c'est un peu fouillis. En même temps, il y a un truc avec le corps qui s'arrête jamais, qui bouge aussi. Je me disais, il y a un truc de flux avec la parole et le corps, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc j'avais commencé à écrire un peu des souvenirs et puis je l'imaginais à deux. Je me disais, ce serait vraiment puissant qu'on soit deux à faire cette espèce de danse qui parle. Et j'avais pensé à une très bonne amie et collaboratrice, Gabriela Jiménez, pour travailler avec moi. Et en fait, elle était blessée au moment où j'ai voulu lancer ce projet. Et donc, c'était le moment où, pile poil, j'ai rencontré une autre copine danseuse. Et je me suis dit, tiens, on pourrait l'écrire à trois, avec moi et Marie, du coup, au plateau. Et Gabriela, qui serait aussi à l'extérieur, mais vraiment l'écrire et le penser à trois. Qu'est-ce que ce serait que cette forme, avec deux présences qui parlent, qui dansent une espèce d'anecdote qu'on ne comprend pas trop et à la fois qui sont très concrètes, très claires, mais c'est juste qu'ils sont un peu absurdes et un peu folles.
C'est difficile d'habiter l'anecdote de l'autre, le souvenir de l'autre.
C'est marrant parce qu'on a fait le choix d'une mémoire collective, donc on a toutes les trois écrit des souvenirs. Il y a des trucs très, 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 très intimes et on a décidé de les porter avec une seule voix. Donc c'est quelque chose de danser, de parler le souvenir de quelqu'un d'autre, comme si c'était le mien.
Oui, on peut imaginer. Parce que c'est des moments uniques pour vie très personnelle, ouais, comme tu dis.
Et tu penses que la danse, c'est une forme d'art qui est plus... où tu es plus en groupe, t'es moins solo que quand tu dessines.
Je pense que oui, quand même. Après, moi, j'écris aussi la danse beaucoup toute seule. J'ai passé beaucoup des heures au studio toute seule, mais quand même, c'est vrai que j'ai fait des projets plus collaboratifs avec la danse. Et puis dans la danse, il y a un truc où on doit se regarder. On doit se regarder, on travaille souvent avec un regard extérieur. On travaille quand même beaucoup avec des retours, avec des feedbacks comme ça. Donc peut-être qu'on est moins seul, en effet, dans la pratique.
Parce que c'est aussi ça que je me disais quand tu racontais que par rapport au fait d'avoir un boulot de, je sais pas moi, de 9h à 18h, tu rentres chez toi, tu oublies tout. En fait, il y a aussi le fait d'être entouré de tes collègues, etc., etc. Ce que du coup, en tant qu'artiste, en tout cas pour écrire un livre, c'est quand même assez solitaire, en fait. Donc, est-ce que tu es une personne qui se sent à l'aise avec la solitude ou est-ce que c'est quelque chose que tu subis pour justement faire naître ton art via ton projet de livre?
Je crois que je suis pas si solitaire que ça. Et que il y a des, je fais des temps forts où je travaille seule, mais il y a de la, il y a toujours, j'aime bien quand il y a de la vie autour de moi.
Ok.
J'ai pu constater. Non, justement, je me dis, est-ce que tu vois tous ces projets, parce que moi, je pense que quand on crée, il y a aussi quelque chose, c'est un espèce de cri, tu vois, quelque chose qui doit sortir de soi. La créativité, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. J'en suis persuadée un peu. Et ça s'exprime de plusieurs manières différentes, mais il y a aussi ce rapport au monde, tu vois, on vit dans ce monde dans lequel on vit. Et pourquoi on fait ces projets aussi, tu vois? Est-ce que c'est parce qu'on a envie que ce soit vu? Est-ce qu'on a envie que ce soit entendu? Est-ce qu'on a envie que ça touche les gens et que ça les change? Est-ce que toi, à travers justement tes œuvres, il y a... est-ce que tu as cette volonté, peut-être, de marquer les esprits sans du tout, sans aucune prétention, tu vois, mais de se dire... Ouais, j'aimerais bien que ça touche peut-être certaines personnes et que ça puisse impulser peut-être un élan chez quelqu'un.
Bah à fond, moi j'ai vraiment envie que ça touche les gens. Ce livre, je l'ai fait vraiment en me disant, moi c'est le livre que j'aurais aimé lire quand je suis sortie des Beaux-Arts en 2020, c'est ça que j'aurais eu envie de lire. Je l'ai vraiment fait en me disant, j'espère qu'il va toucher et qu'il va être un support et un soutien pour d'autres que moi. Qui ont traversé des moments un peu de crise existentielle comme ça. Et je le vis un peu de la même façon dans la danse. Là, par exemple, dans le solo que je suis en train d'écrire, qui est l'histoire d'une femme qui tombe complètement amoureuse d'un homme qui fait un documentaire sur lui, mais en fait, lui, c'est un sale type, c'est affreux, mais elle ne s'en rend pas compte. Et c'est un peu pareil avec ce personnage du solo. J'ai envie de faire rire et d'émouvoir des gens et de cette situation, un peu de relation amoureuse catastrophique, en leur disant « c'est pas grave, ça va aller ». Et vraiment, l'idée, c'est de faire un écho, et moi, je le fais pour ça aussi, pour que ça touche d'autres.
Est-ce que justement tu fais en sorte de nourrir ton inspiration, d'aller voir d'autres spectacles, d'autres pièces, de lire d'autres bouquins? Est-ce que ça vient de là aussi ou...
Oui, par exemple, le livre, c'est vraiment... j'ai eu envie d'en faire à un moment donné où j'en ai beaucoup lu. Et la danse, pareil, je vais voir très souvent des spectacles. Après, quand je suis en création, par exemple, le livre, quand j'étais vraiment dans des grands temps forts, j'arrêtais de lire autre chose. Pour pas trop être influencée, pour pas trop commencer à tout remettre en question. Je pense qu'il y a des temps où on a besoin d'être éponge et un peu d'absorber et être inspirée par les autres. Et il y a des temps où on a besoin d'être vraiment seule et de pas voir d'autres trucs créatifs. Ouais,
d'être focus, quoi.
Ouais.
Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as des réseaux comment on fait
pour... Oui, on peut voir mes dessins sur mon Instagram artistique qui porte mon nom d'auteur, c'est Loukoum du Nord, tout attaché, d'accord, comme un loukoum. Et la compagnie de danse Purple Fog a aussi un Instagram, c'est Si Purple Fog, okay. Facile à trouver.
Et ton solo d'ailleurs, ça portera le nom de ta compagnie ou juste toi?
Le solo, il sera porté par ma compagnie et il s'appelle le projet s'appelle Le Cœur de Pierre.
Qui sera prêt,
je pense, en 2025.
Cool.
Il faut de la perspective.
On va le lire, ouais. Patienter.
Du temps.
Est-ce que, peut-être, tu aurais un message, je ne sais pas, que tu as envie de peut-être donner, que ce soit au monde, parce que là, tu as le micro, tu as le mic, baby. Est-ce que, je ne sais pas, tu as peut-être envie de partager... Un souvenir, une anecdote, justement, un peu comme dans la création que vous avez. Quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'a inspiré, quelque chose qui t'anime, peut-être.
Ouh là là, je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ce qui me traverse là, en ce moment, c'est de me dire que je me suis toujours sentie lente.
Ah oui ?
Dans les projets. Et en fait, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, on a du temps. Donc c'est super que les projets prennent du temps, prennent des années, on en a. Et utilisons-le pour faire des projets. En fait, c'est jamais trop long. Ça prend le temps que ça prend. Et j'apprends ça seulement maintenant, après 10 ans de parcours artistique, mais c'est super important. Et voilà, tout est long et c'est génial. Vive le temps.
C'est une très bonne façon de conclure. En fait.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Est-ce que tu as une musique à nous proposer, du coup? Et est-ce que tu as envie de donner un petit avis sur cette musique?
C'est une musique que j'ai beaucoup, beaucoup écoutée là au mois de janvier, en terminant ce livre, en travaillant tous les jours pour le terminer. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à écouter Donna Summer vraiment énormément. Et la musique que je vous propose, c'est On the Radio, que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup, Louise. Merci, les filles. C'était très chouette.
Merci, Louise. Merci à toutes.
Merci. Must have fallen out.